On se retrouve ce soir pour notre quatrième session, donc sur recherche et souveraineté industrielle, des ruptures d'approvisionnement aux innovations de rupture. Et nos intervenants, c'est donc le professeur Alain Bernard, qui est membre du CRAPS, chef du pôle chirurgie cardiovasculaire et thoracique du CHU de Dijon. Ça me fait toujours plaisir de voir les bourguignons présents dans... Là, j'ai fait mes études à Dijon, donc c'est pour ça que... Ancien vice-président de la CLEDIS. On a Antoine Ferry, qui est membre de l'ISA et qui est CEO du laboratoire CTRS et secrétaire général de l'AMLIS. Pour les électrons, on a Frédéric de Brouquer, qui est directeur économie de la santé et remboursement de Medtronic. Et pour l'observatoire de la régionalisation, on a Younes Telali, qui s'occupe de l'observatoire, et Vincent Dael. Proposeront les différentes de débattre sur les différents thèmes qui ont été travaillés par l'observatoire. Intervention de 5 à 10 minutes, pas plus, pour qu'on puisse garder du temps pour les questions ensuite. Donc Alain Bernard, écoutez, je vous passe tout de suite la parole.
Voilà, merci infiniment de m'avoir invité de parler de la recherche clinique, parce qu'en fait, je vais être porte-parole d'un travail qui a été réalisé par le CRAPS sur la recherche médicale. Donc effectivement, la méthodologie était assez originale, puisqu'elle a donné la parole à un certain nombre de personnes sur le sujet, souvent des personnes qu'on n'entend pas du tout parler de la recherche. Ces contributeurs ont été au nombre d'une trentaine, provenant d'horizons totalement différents. Des présidents de région, une ancienne ministre de la recherche de l'université, on participe au travail, mais à côté de ces personnalités, on a interrogé des femmes, des hommes, professeurs d'université, praticiens hospitaliers, directeurs d'hôpitaux. On produit des textes de qualité qui sont dans l'ouvrage. Et ils pointent du doigt le décrochage de la France en matière de recherche. Le CRAPS a aussi invité des jeunes chercheurs et des infirmières, des personnalités de la recherche privée et de l'industrie pharmaceutique. Une synthèse a été réalisée par un groupe d'experts, donc dont il y avait le docteur, monsieur Accoyer, une PUPH d'animatologie, le professeur Leblon, le docteur Marie-Cécile Michalet, qui était chercheuse, et Jean-Paul Segal, bien évidemment président du CRAPS. Et je rends hommage à ce titre-là au professeur Jean-Michel Dubernard, qui faisait partie de ce groupe d'experts, qui nous a quittés malheureusement, brutalement, et à qui on dédie cet ouvrage. Le travail a permis de faire un constat inquiétant du recul de la recherche biomédicale française sur la scène internationale. La complexité de la gouvernance et du manque de lisibilité des financements pour le nombre de publications scientifiques, la France est passée du 5e au 8e rang mondial. La France, qui est quand même le pays de Pasteur, n'a pas été capable de développer un vaccin contre le Covid. Parmi les points forts de ce travail, le premier d'entre eux rappelle que la recherche doit être au service des patients afin de mieux les soigner et d'améliorer leur qualité de vie. Les auteurs ont souligné la nécessité de rendre les carrières de chercheurs plus attractives et de mieux valoriser afin de lutter contre la précarité des postes que l'on propose à nos jeunes chercheurs. Une des conséquences est la fuite des talents vers d'autres pays. Pour les contributeurs, le niveau régional est un échelon pertinent en favorisant l'agilité et permettant de faire travailler des structures universitaires de recherche avec les acteurs économiques de la région. Cependant, la recherche doit s'inscrire véritablement dans une dimension européenne et internationale. Plusieurs auteurs ont insisté sur la nécessité de lever les freins pour redonner un nouveau rayonnement à la recherche française, comme le prouve la faible participation de la France aux essais cliniques comparée à d'autres pays européens. Les maîtres mots des contributeurs sont les suivants: alléger, clarifier et simplifier les démarches administratives et réglementaires pour la recherche clinique en privilégiant la notion de guichet unique. L'organisation en silo également des différents organismes impliqués dans la recherche, comme l'INSERM, le CNRS, l'université, les CHU et bien d'autres, on en compte au bas mot une dizaine, engendre des lourdeurs de procédure, la complexité de la gouvernance et l'éclatement organisationnel sont autant de facteurs qui conduisent à éloigner les chercheurs de l'hôpital et décourager les grandes entreprises du médicament ou du dispositif médical. Parallèlement, il devient nécessaire de repenser la définition des critères de performance également, des équipes comme des institutions. Pour relever les barrières réglementaires et idéologiques entre la recherche publique et privée, entre les statuts et les contrats, il faut créer les conditions d'une synergie permettant de valoriser les parcours croisés. Le travail a mis l'accent également sur la révolution numérique et l'innovation de rupture, chère au professeur Dubernard. À ce titre, La recommandation 6 insiste sur l'apport du numérique pour renforcer et structurer la recherche, notamment l'intelligence artificielle et les bases de données auront un intérêt capital dans l'accélération de l'évaluation clinique des produits de santé. L'exemple danois illustre parfaitement ce propos où les bases de données sont ouvertes pour la recherche. Certains acteurs craignent que la France et l'Europe ne soient pas au rendez-vous du développement de l'intelligence artificielle. La France demeure frileuse en matière d'innovation de rupture. Notre pays doit retrouver une véritable capacité d'innovation pour rester dans la course. Les freins financiers, réglementaires, culturels et structurels n'incitent pas à l'innovation. Le document propose une action publique facilitatrice de l'innovation. Elle doit reconnaître la spécificité des innovations de rupture et mettre en place une évaluation adaptée. Une innovation de rupture, c'est accepter le risque et de faire confiance aux acteurs. Pour conclure, la France doit avoir l'ambition de devenir une terre d'innovation, de découverte et d'accueil pour les chercheurs et les industriels. Il faut redonner aux acteurs la liberté, mot-clé souvent en exergue dans les contributions. Les acteurs de la recherche doivent être libérés d'un certain nombre de contraintes administratives et réglementaires devenues trop lourdes. L'excellence de la recherche française doit redevenir porteuse de solutions innovantes pour les patients. Je vous en remercie.
Merci beaucoup pour ce propos extrêmement intéressant. Est-ce que vous nous autoriserez à mettre dans le compte-rendu le lien vers le document que vous avez fait ? Parce que je pense que ce sera très intéressant d'avoir aussi, on est en train de travailler sur cette synthèse, d'avoir aussi tous les documents sources sur lesquels on puisse s'appuyer. Antoine, en ce qui concerne Lisa, quelles étaient vos réflexions et vos propositions si demain on rencontre les différents candidats nombreuses et nombreuses à l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'on va leur dire et qu'est-ce que Lisa a envie de leur porter comme message ?
Ben, je commencerai d'abord par quelques chiffres. On vient de parler de la recherche. Après, il y a la transformation industrielle. Et je pense qu'il est important de redonner de la valeur aux chiffres et de la réalité de la situation actuelle de la France. Il y a 30 ans, c'est certes il y a longtemps, il y avait 20% des principes actifs qui étaient produits en dehors de l'Europe. Aujourd'hui, c'est 80%. La France, en l'espace de 10 ans, est passée du premier producteur en termes de volume de production, de valeur de production, au quatrième rang en termes de fabrication. Sur les 254 nouveaux médicaments qui ont été autorisés par l'Agence européenne des médicaments entre 2016 et 2018, il y en a 20 qui sont produits en France, 46 en Grande-Bretagne, 36 en Allemagne, 31 en Irlande. Et quand on regarde le pourcentage des médicaments qui sont produits en France, la majorité sont les médicaments remboursés. Les médicaments remboursés, c'est 22%. Les principaux médicaments hospitaliers, c'est 17%. Et les anticorps monoclonaux, c'est 3%. Et là, je fais le lien avec le premier intervenant sur le fait que si on ne réalise pas la transformation industrielle aussi pour les produits innovants, on aura raté le train. Mais le pire dans tout ça, même si l'accord cadre, l'MCEPS, a été honnêtement une progression évidente pour les produits innovants, ce qui me fait peur demain, c'est qu'on aura des patients qui seront guéris de leur cancer et qui vont mourir parce qu'on sera en rupture de stock d'une ampoule de chlore de potassium qui doit coûter 10 centimes d'euros. Donc, avant de reparler de relocalisation, je pense qu'il serait bien qu'on valorise la localisation et la production française. Parce que malheureusement, ce qui est un peu paradoxal, c'est que pour essayer de garder et de survivre, je suis secrétaire général de l'AMLIS, donc je défends aussi les PME françaises. Pour essayer de survivre, on a délocalisé en fait la production. Donc avec parfois des qualités un peu douteuses, je n'incriminerai aucun site industriel en dehors de l'Europe, mais il y a eu beaucoup de ruptures qui étaient liées à des problèmes de non-conformité de principes actifs ou de produits finis. Ceci est lié aussi à un problème environnemental, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face, on a délocalisé la problématique environnementale sur des pays qui s'en préoccupaient un peu moins. Et de facto, on s'est retrouvé avec un tissu industriel français qui produit énormément de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, qui sont tous avec des ASMR 5 parce que ce sont des vieux produits, qu'on fait baisser le prix année après année, et il y a un moment où, quand il n'y a plus de marge, comme on ne peut pas vendre à perte, eh ben les produits sont en rupture et les produits sont arrêtés. Et ça, c'est valable pour énormément de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui sont en France et produits par des sociétés françaises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à faire, si ce n'est valoriser, avant de valoriser la relocalisation, valoriser déjà la localisation française. D'autre part, je pense qu'il faudrait avoir un raisonnement un petit peu plus large. On a quelques exemples où des baisses arbitraires demandées par la direction de la sécurité sociale sur des produits qui avaient un faible remboursement, un faible taux de remboursement, faisaient perdre trois fois plus à l'État français à travers la perte d'impôt sur les sociétés que le gain qui était réalisé potentiellement par la sécurité sociale. Donc on est vraiment dans une aberration absolument totale du fait de l'infongibilité des enveloppes qu'on nous rabâche à longueur d'année jusqu'au 31 décembre à 23h59. Donc les propositions sont simples, c'est valoriser la production française, c'est peut-être avoir une fiscalité avantageuse en termes du point de vue industriel, parce que certes il y a eu dans le cadre du plan de relance des apports financiers significatif, et je connais quelqu'un qui est dans cette table ronde qui en a profité, et on lui a repris quelques mois plus tard d'une autre main à travers une baisse de prix. Donc je pense que c'est vraiment avoir une vision beaucoup plus globale de l'impact des baisses de prix ou au contraire de l'impact des hausses de prix que pourrait avoir autoriser le CEPS, de manière à conserver un tissu industriel qui soit performant, de manière à éviter les ruptures de stock. Et je pense que c'est pas grand-chose à faire. On peut jouer, on a eu quelques discussions, Olivier, comme tu sais, avec Bercy. La fiscalité est un des leviers qui permettrait certainement d'améliorer le système. Mais je pense aussi que si le CEPS avait une vision un petit peu plus globale lors de la fixation des prix et lors de la demande de baisse de prix un peu arbitraire, avec un poids moindre de la direction de la sécurité sociale et certainement une représentation de la direction générale des entreprises un peu plus forte, je pense qu'on sortirait beaucoup mieux. Voilà en quelques mots ce que je peux dire ce soir dans l'attente de nos discussions.
Merci beaucoup Antoine pour ces propos qui sont pas marqués à l'aune de la langue de bois, et j'apprécie assez. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui sont évidentes, qu'on connaît depuis des années, qui sont peut-être pas suffisamment rapportées aux politiques d'ailleurs pour qu'ils puissent prendre des décisions, et donc c'est l'occasion de le faire. Et si on veut faire une politique de relance industrielle telle qu'elle est voulue par le président de la République, il va falloir prendre des mesures qui soient des mesures fortes sur le plan de l'incitation des administrations à compter autrement. Frédéric de Brouquer, qu'est-ce que les électrons ont pondu? Qu'est-ce qu'ils ont réfléchi en ce qui concerne ce sujet absolument essentiel?
Alors, les électrons ont réfléchi, et les électrons ont réfléchi sur l'ensemble des technologies de santé. C'est-à-dire que je vais essayer d'embarquer dans mon propos à la fois les médicaments, les dispositifs médicaux, mais aussi les solutions numériques et organisationnelles, puisque pour nous, l'innovation de rupture, elle est variable et elle est multifacette. On se rappelle tous du fiasco des masques, des ventilateurs. Il n'y avait pas de ventilateurs au début de la crise Covid. Il n'y avait pas de médicaments de base, il n'y avait pas de curare. Pendant la crise, donc on voit bien qu'il y a une lacune de la France en matière de souveraineté des produits de santé. Je ne vais pas reprendre les propos d'Alain Ferry sur toute la filière chimie avec la problématique qu'on a eue de délocalisation de cette filière dans les pays d'Asie. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on se penche sur les filières de production des dispositifs médicaux, on a des problématiques qui sont au moins aussi complexe, puisqu'on a des problématiques de sourcing dans différents pays, et on peut sourcer des produits et des composants en France qui vont être utilisés et assemblés en Italie. Pendant la crise pour nos ventilateurs, le fabricant français n'arrivait pas à fournir, donc on est allé se fournir au Vietnam. Vous voyez, donc nos problématiques de sourcing vont dans tous les sens. Un point qui est important aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette structure que Antoine Ferry a très bien décrit, on a un vrai problème conjoncturel. Nos usines de production ont du mal à produire parce que nos employés sont malades, sont absents, qu'on a un problème de productivité. La crise des semi-conducteurs, ce n'est pas que pour les voitures. C'est aussi pour tous les équipements médicaux qui sont utilisés, pour tous les implants actifs. On a donc aujourd'hui une problématique de pénurie qui est aggravée par la conjoncture de la crise avec les problèmes de transport, etc. Et quand on pose des obligations de stock, que ce soit pour les médicaments et les dispositifs médicaux, et qu'on est dans cette phase de pénurie, ça devient très compliqué. Donc on a du mal à répondre à nos obligations réglementaires. En parlant de ça, on a aussi une surréglementation au niveau national qui va s'ajouter, toujours sur les dispositifs médicaux. On a une instruction qui date de 2011 et qui surréglemente toute la partie de décontamination et de réutilisation des DM qui sont réutilisables. Donc du coup, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on doit créer un stock spécifique à la France et que toute la fluidité qu'on pourrait avoir, si on imagine la supply chain au niveau européen, on ne l'a plus pour la France. Et il n'y a pas de raison spécifiquement épidémiologique ou médicale pour faire ça. C'est juste une décision réglementaire qui a été prise en 2011. En 2021, autre décision de ce type, c'est que pour les produits qui sont utilisés par les patients, et il y en a beaucoup quand on pense produits de santé qui sont utilisés directement pour les patients, on a l'obligation d'avoir un étiquetage avec le logo Triman. C'est pour expliquer ce qui est recyclable, etc. Ce qui est extrêmement, ce qui part d'un bon sentiment, sauf que quand on est marqué CE au niveau européen, bah, nos étiquetages et nos emballages et les notices d'utilisation sont multilangues et sont faites pour le niveau européen. Si on doit avoir un étiquetage spécifique à la France, à nouveau, on crée un sous-stock au niveau France et on empêche la circulation du produit de manière plus fluide. Ça complexifie le travail de l'industriel. En situation de pénurie, c'est catastrophique. Donc voilà, c'est ce type d'exemple. Donc finalement, à ce stade, les électrons ont envie de poser trois idées. La première, c'est d'éviter la surréglementation nationale quand elle n'est pas nécessaire. La deuxième, c'est de regarder les chaînes de production, probablement plus au niveau européen que spécifiquement français. Pourquoi? Parce que si on veut relocaliser qu'en France, je pense qu'en termes d'investissement, on n'a pas les moyens et qu'il faut donc qu'on ait une approche européenne et repenser cette fluidité de la supply chain au niveau européen. Et chose importante aussi, et je rejoins ce que vous disiez, Monsieur Ferry, le concept de One Health, de transition écologique, est très important dans notre réflexion chez les électrons. Le fait de relocaliser en Europe, c'est aussi relocaliser dans des pays où les normes de production, les normes environnementales sont plus élevées que dans d'autres régions du globe. Et ça a aussi cet intérêt. Et je pense que c'est ce qu'il faut pousser. Maintenant, on parle de production. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on change un petit peu le paradigme de se dire que la santé, c'est un coût, qu'il faut gérer le déficit et donc d'en avoir qu'une approche budgétaire à court terme, mais de penser aussi santé comme un investissement à moyen et à long terme. Et donc, ça me conduit à aborder la seconde thématique hein, qui concerne les innovations de rupture, où on se dit que finalement, ces innovations, ces produits de santé, que ce soit des médicaments, des DM ou des solutions digitales, c'est bien d'ajouter de la vie aux années de vie dans un contexte de population vieillissante et de pathologies chroniques. Donc, on a beaucoup d'espoir. Mais quand elles arrivent, le système, il n'est pas prêt. Et donc, ce qu'on souhaiterait, nous, ce qu'on proposerait, c'est d'avoir une première proposition, un horizon de scanning où on va identifier les technologies de santé qui sont susceptibles d'avoir un impact sanitaire, mais aussi organisationnel, mais aussi budgétaire important, et de donner aux décideurs la possibilité de faire des arbitrages nécessaires en fonction des besoins de santé publique de la population. Je parle bien des besoins de santé, pas des besoins de soins. Là aussi, donc d'élargir un peu le propos, et puis de donner de la visibilité aux chercheurs et aux industriels. Donc en fait, si on a des objectifs stratégiques clairs d'investissement, on sait où aller. Ça, c'est la première proposition des électrons. La deuxième, c'est de travailler avec les patients et les soignants quand on développe nos solutions en tant qu'industriels, pour avoir une meilleure prise en compte des besoins qu'ils ont les uns et les autres dans le cycle de vie des thérapies. Ça doit passer par le fait de redonner confiance et de l'énergie aux acteurs de notre système de santé, en intégrant les facteurs humains et sociétaux quand on développe nos solutions. Et je pense beaucoup aux solutions digitales aujourd'hui qui peuvent être utilisées par des patients, qui peuvent être utilisées par des soignants. Et quand on se retrouve à créer des usines à clics, pas d'adhérence, ben en fait, on a raté. Voilà, on a raté les choses. Et donc, ce travail-là, on doit le faire dès le départ en intégrant beaucoup plus les usagers dans ce qu'on développe. Et deuxième point sur cette deuxième proposition, c'est une meilleure prise en compte de l'expérience des patients dans les évaluations de la Haute Autorité de Santé. Il y a vraiment des efforts qui sont faits en ce sens et nous, on propose de les consolider encore plus et d'aller encore plus loin. Troisième proposition, il m'en reste plus que deux, Olivier. J'espère que je ne dépasse pas le temps. D'entrer dans un changement de paradigme de l'évaluation des produits de santé innovants. Ça rejoint un peu ce que disait Alain Bernard. C'est finalement de réinventer le modèle de l'évaluation en insistant beaucoup sur les suivis en vie réelle au long cours et en développant de nouvelles méthodes d'évaluation. On peut beaucoup travailler sur des méthodes d'évaluation qui utilisent les données de santé, qui impactent des algorithmes d'IA pour mieux comprendre les parcours, les profils des patients en fonction de ces parcours, etc. On a besoin d'avoir ces évaluations à la fois médicales, économiques et qu'elles soient pragmatiques et qu'elles arrivent au bon moment. De la mise sur le marché et de la vie, du cycle de vie de nos thérapies. Ça va permettre de mesurer les gains de qualité de vie, mais aussi les gains sociétaux qu'on peut avoir. On va diminuer peut-être les indemnités de journée, remettre les gens dans la productivité, améliorer, éviter des réinterventions et des complications. Pour ça, et je pense qu'on va tous le dire ce soir, il faut avoir un accès rapide aux données de santé, les partager mieux. On dispose en France d'une superbe idée qui est le F-Data Hub. Il faut vraiment le consolider, il faut vraiment qu'il puisse se mettre en marche et que donc il y a vraiment un cadre réglementaire qui existe aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui viennent encadrer les choses dans le bon sens du terme, hein, parce qu'on ne veut pas avoir de fuite des données des patients et des usagers. Néanmoins, là, il faut qu'on puisse se déployer et être opérationnel très rapidement maintenant. Et enfin, pour les médicaments, on plaide pour un plus grand respect du droit européen, notamment du droit européen qui entoure les médicaments orphelins, puisqu'en France, l'évaluation, en fait, elle est différente de ce qui est imposé au niveau européen. Et on va peut-être empêcher l'accès à des médicaments orphelins en France, alors que dans le reste des pays d'Europe, ils sont accessibles. Et dernière proposition, c'est de repenser les process d'accès au marché et les modalités de financement de l'ensemble des technologies de santé. Ces process d'accès au marché, notamment quand on est dans une innovation de rupture, c'est particulièrement complexe. Si je prends l'exemple des dispositifs médicaux, on va avoir le forfait innovation, la prise en charge transitoire, la prise en charge accélérée maintenant pour les solutions numériques, à différents niveaux du marquage CE, des données qui existent, etc. Donc, ce n'est pas très simple à suivre et à comprendre. Et puis, une fois qu'on travaille sur la prise en charge du produit de santé, il ne faut pas oublier qu'il y a l'acte du professionnel de santé, voir le groupe homogène de séjour, voir l'organisation de soins en ville, qui doit aussi être financée. Et en fait, il y a des moments où l'évaluation par la Haute Autorité de Santé est conjointe, mais les modalités de tarification sont totalement disjointes. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est réfléchir à une reconnexion entre ces différents financements pour qu'on ait une approche beaucoup plus fluide et un accès plus rapide de l'innovation et qu'on puisse permettre sa diffusion, puisque l'ensemble des acteurs qui vont l'utiliser vont être financés correctement. Si on va un petit peu plus loin dans ces nouvelles modalités de financement, une fois qu'on a pensé plus cohérence du système, c'est que peut-être au lieu de rémunérer en one shot des technologies innovantes très onéreuses, on peut conditionner leur financement à l'atteinte de résultats. Des résultats médicaux, des résultats qui importent aux patients, des résultats de performance. Et on peut même imaginer d'aligner les différents acteurs, c'est-à-dire l'industriel de santé, mais aussi le soignant ou l'organisation, l'établissement de santé, l'organisation de soins, sur un même résultat pour aboutir à une meilleure coordination des acteurs et payer plus à la qualité. Deuxième chose aussi, les contrats de performance sont prévus dans l'accord cadre CEPS médicaments. On les utilise aussi depuis longtemps, il faut le savoir, au niveau des dispositifs médicaux, avec le comité économique des produits de santé. Ce qui serait bien, c'est peut-être de les rendre plus visibles, de clarifier leur fonctionnement et de moins les utiliser comme un outil de régulation budgétaire et plus comme un système qui va permettre d'inciter à la diffusion de l'innovation. Et enfin, on peut imaginer des mécanismes d'étalement de paiement pour faire passer la régulation des thérapies innovantes, non pas comme une logique purement comptable, mais vraiment d'avoir une logique d'investissement au profit des malades, de la société et de l'industrie française, voire internationale aussi. Voilà ce que je voulais dire, Olivier.
Merci beaucoup. Merci. C'est des sujets qui sont passionnants. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'animais un débat hier sur ERA à l'Académie de médecine. Et ce sont des sujets qu'on retrouve un peu partout, et en particulier dans la construction du mécanisme de préparation et de réponse à la crise. Ça fait partie, les objectifs industriels sont particulièrement en pointe dans cette construction. Alors, pour finir, on passe la parole à l'Observatoire de la régionalisation, Younes et Vincent.
Merci Olivier. Donc, Younes pour l'Observatoire de la régionalisation. Le choix qu'on a fait de notre côté, c'est d'aborder cette question de la recherche et de la souveraineté industrielle par le prisme de la recherche translationnelle, avec trois axes de développement. Un premier axe qui aborde d'abord la question de la recherche dans les universités, parce que ce sont quand même des écosystèmes où on a une forte activité de recherche, et notamment de recherche fondamentale, mais ce sont quand même des écosystèmes où on a beaucoup de mal à valoriser cette recherche fondamentale. Donc, un premier axe sur la question des universités. Un deuxième axe qui prend en compte le pixel régional, parce que c'est quand même le cœur de nos réflexions à l'Observatoire de la régionalisation, et qui étudie dans quelle mesure on peut placer les régions comme guichet unique pour le développement, et notamment au stade précoce, de jeunes entreprises qui souhaitent développer des innovations de rupture. Et enfin, un troisième axe, donc on va un petit peu plus loin dans les stades de développement d'une entreprise, où là se pose la question de l'investissement en capital risque et d'étudier, de voir dans quelle mesure cet investissement en capital risque, tant d'acteurs privés que d'acteurs publics, est suffisant pour permettre à ces entreprises d'aller à des stades peut-être un petit peu plus matures de développement de leur technologie, et donc jusqu'à l'industrialisation, où là, on va potentiellement se heurter à des problématiques que M. Bernard, Antoine Ferry et Frédéric de Brouquière ont évoquées, avec toute la complexité du système administratif français. Donc, si on va pour commencer par la question des universités, donc je disais que c'était des bassins de recherche très actifs. Et depuis quelques années, on a une politique volontariste de la part de gouvernements successifs pour faire de la recherche française dans les universités un leader mondial, parce que dans les classements internationaux, de toute manière, ce qui compte, c'est les critères qui sont pris en compte, ce sont des critères de recherche. Donc il y a la volonté du côté des mesures gouvernementales qui ont été prises de valoriser ce secteur-là avec deux actions concrètes. Il y a la question des politiques de regroupement qui s'étoffe depuis 2013. On a eu une ordonnance, je crois, en 2018 qui permet de consolider cette politique de regroupement d'établissements. Et puis récemment encore, la revalorisation des carrières universitaires pour les chercheurs avec la LPPR et la volonté d'attirer des profils d'excellence. Les universités, elles sont aussi intéressantes parce que c'est des structures qui arrivent à s'ancrer de plus en plus, et c'est accéléré par cette politique de regroupement, au sein de leur territoire. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que ça permet d'ajouter un peu de porosité entre l'activité de recherche fondamentale qui se déroule dans ces établissements et puis l'implémentation, la valorisation au sein d'un environnement socio-économique, donc représenté plutôt par les entreprises. On a quelques freins quand même à la valorisation de la recherche dans les universités, donc l'accès à de l'innovation de rupture à des stades industriels. c'est celui de la culture dans les établissements de santé, et peut-être qu'on a des gouvernances actuelles dans les universités qui ne sont pas suffisamment adaptées ou qui vont pas suffisamment qui sont pas suffisamment entrepreneuriales. On peut peut-être dire ça comme ça. A contrario, quand on regarde les gouvernances qu'on a dans des écoles, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou de commerce, on a beaucoup plus cette culture avec des entreprises qui sont beaucoup plus ancrées dans la gouvernance de ces établissements-là, et on arrive beaucoup plus à valoriser la recherche réalisée par les élèves des écoles que la recherche effectuée par des étudiants universitaires. Donc, probablement un premier point sur la gouvernance des universités, avec peut-être une implication un petit peu plus forte des acteurs socio-économiques. Bon, il y a des pressions internes, il y a des dogmes qui existent qui fait que c'est pas facile. Mais à mon avis, si on veut amener des innovations de rupture jusqu'au stade de l'industrialisation, c'est un point important à développer. Donc voilà pour le premier axe. Sur le deuxième axe, on a identifié la région comme un pixel intéressant. Pourquoi la région est intéressante ? Tout simplement parce qu'elle concentre un certain nombre d'acteurs qui sont des financeurs, qui sont des acteurs politiques, qui sont des acteurs de la formation. Elle couple ça à un niveau de proximité intéressant. Et quand on lance une activité, Dieu sait qu'on a besoin d'accompagnement, qu'on a besoin d'un écosystème qui soit suffisamment sécurisant pour les acteurs et leur permettre d'amener à des stades un petit peu plus matures leur idée, leur produit. Frédéric de Brouquière évoquait tout à l'heure la question de l'expertise, du lien avec les établissements de santé, avec les professionnels de santé. Là, pareil, si on prend par exemple le cas de la thérapie génique avec les centres de référence, on voit bien qu'on a un acteur local de proximité qui est le centre de référence, qui concentre une expertise, qui va devoir travailler avec un industriel sur la question du développement du développement clinique de son produit de santé. Donc on trouve le pixel régional assez intéressant, et c'est pour ça que l'une des recommandations qu'on formule peut-être à approfondir, c'est celle de la création d'un guichet unique régional. Et peut-être qu'avec la préfiguration de l'Agence de l'innovation en santé, l'idée d'une déclinaison régionale des compétences de cette agence pourrait être intéressante, notamment pour les entreprises les plus jeunes, les plus immatures. On avait à l'époque, alors je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, des instituts régionaux de participation qui participaient au financement, à l'accompagnement de ces entreprises qui étaient financées par la Caisse des dépôts. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais regrouper des compétences qui pouvaient être très utiles à une échelle régionale. Et enfin, le dernier axe concerne la question de l'investissement en capital risque. Donc, capital risque, c'est au stade les plus précoces développement de l'entreprise, où là on se rend compte qu'on a des écosystèmes plutôt intéressants qui existent, avec des fonds d'investissement privés qui accompagnent des entreprises de jeunes entreprises dans leur développement, et peut-être que la régionalisation ou la consolidation d'un maillage d'acteurs capables de faire de l'investissement en capital risque au niveau régional pourrait être une idée à creuser pour permettre à ces jeunes entreprises de faire maturer leur technologie et d'atteindre un niveau industriel. Donc voilà, j'ai essayé de faire vite. Voilà où en sont les réflexions. Beaucoup de questions, beaucoup de choses à creuser. Mais s'il fallait résumer, trois propositions. La première, celle de la gouvernance des universités. Il y a pour moi un vrai enjeu à ce niveau-là. Deuxième proposition sur la question des guichets uniques régionaux. Et troisième proposition, celle de l'investissement en capital risque plus solide au niveau de structures régionales.
Merci beaucoup, Younes, pour cette présentation. On va passer maintenant au temps des questions. Est-ce qu'il y a déjà des réactions de la part d'Alain Bernard, de Frédéric, d'Antoine par rapport à ces quatre propositions?
Moi, j'en aurais bien une qui est la mise en place de l'Agence de l'innovation santé qui pourrait résoudre un certain nombre de choses à partir du moment où elle serait sous la tutelle de la présidence de la République ou à minima de Matignon. Je veux dire, si l'Agence de l'innovation reste avenue Duquesne, je pense qu'on n'ira pas très très loin. Il faut qu'il y ait vraiment une volonté pluriministérielle, voire du Premier ministre, voire de la présidence de la République, pour que ça avance et qu'elle ait, je dirais, les pouvoirs qui lui sont accordés et qu'elle puisse agir comme elle a envie d'agir. Quand on voit le profil de recrutement que vous avez dû voir du futur directeur général de l'agence, j'avoue que je suis assez surpris. On évolue vers quelque chose de plutôt bien si on lui donne les moyens d'agir et si en effet il n'est pas sous une seule tutelle ou une double tutelle de la recherche et de la santé.
Bon, je vais reprendre la remarque par rapport à la région. Je trouve que cette présentation est tout à fait excellente. Effectivement, je pense que la région, c'est un très bon modèle pour pouvoir valoriser la recherche. Dans la parallèle d'université, la complexité, mais vous oubliez quand même un détail qui complexifie encore plus, c'est les autres organismes de recherche, que sont l'INSERM, le CNRS, qui ont chacun leur précaré, c'est vraiment un système en silo. Et si on veut atteindre votre modèle, bon, je trouve très intéressant, hein, d'ailleurs, c'est dans le document qu'on en parle, la région, c'est dans un bon niveau, mais il faudrait pouvoir cette gouvernance, effectivement, l'a changé. Ça demande, je ne sais pas si les acteurs actuels sont prêts à changer complètement, devenir beaucoup plus transversal et non moins pyramidal, en silo comme c'est actuellement. Voilà, et puis même de Bouquet, je vous rejoins, hein, sur l'innovation de rupture. Je sais si, bon, on s'est rencontrés, c'était à l'époque, bon, ça fait bientôt 10 ans, mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on change de paradigme, hein. Ça, c'est une évidence, l'innovation de rupture. En France, on est bloquant, hein, par rapport à l'innovation de rupture. Il y a une frilosité, je crois, psychologique. On a peur dans l'innovation de rupture. Et donc, on a des outils qui sont les bases de données de l'assurance maladie, la ZAE, mais on sent très bien que ça démarre lentement, qu'il y a des contraintes administratives aussi qui rajoutent encore une couche. Je suis pas sûr qu'actuellement, on ait la même souplesse, par exemple, que le Danemark pour faire l'évaluation de ces procès. Non. Voilà, nous sommes d'accord, hein, sur les points. J'ai été surpris qu'on ait des points de convergence à ce point-là. Mais la région, vraiment, moi, je trouve que je vous félicite pour votre réflexion sur la région. Et puis, notamment la notion d'entrepreneuriat. Et pourquoi pas imaginer que certains chercheurs puissent aller travailler dans le privé, développer des petites start-up et puis revenir dans l'université. Mais en France, c'est inconcevable. Alors que ça montrait un certain dynamisme, une certaine. Je trouvais très intéressant. Alors, on avait parlé, nous, de guichet unique, mais c'est peut-être un guichet unique régional, c'est peut-être une bonne idée. Oui, c'est vrai, aussi. Mais si au-dessus, il y a une agence de l'innovation qui va chapeauter tout ça, on sait très bien en France que ça donne. Hein. C'est une couche supplémentaire de strates administratives. Voilà. Bon.
Sauf si on en supprime quelques-unes. Sauf si on en supprime quelques-unes en dessous.
Voilà. C'est exactement la réflexion de Jean-Paul Segade. Ouais. Ok, pour créer une agence sous réserve d'en supprimer deux, ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, on pourrait faire la même chose en reprenant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique. Je suis sûr qu'un bon travail de synthèse et de nettoyage rendrait service à l'intégralité des acteurs de santé. Quand on voit l'amoncellement des textes, ça devient absolument insupportable. Alors, il y a Corinne Roussel-Thomas qui voulait poser une question sur le rôle de l'ARS. Corinne, je vous passe la parole. Vous m'entendez? Peut-être êtes-vous en mute. Alors, je lis la question. Cela signifie-t-il que l'ARS devrait s'ouvrir vers la recherche et j'irai plus loin? Je rajouterai peut-être un deuxième code ici, c'est est-ce qu'elle doit s'ouvrir aussi aux questions industrielles?
Je ne pense pas.
On va déjà laisser gérer les EHPAD.
Oui. Non, moi, je pense pas. Enfin, à titre personnel, c'est personnel, je pense pas, non. L'ARS, non, non. Pas sur vous, là, non. Non.
Je pense que c'est pas son rôle, forcément. Oui. Je suis pour les soins régionales, mais pas que pour la recherche. Je pense aussi que l'organisation des soins doit se régionaliser beaucoup plus, voire même être plus centrée sur le territoire, en fonction des besoins de la population, bah, de définir comment ce qu'on va proposer et quelle organisation des soins on va mettre en place en fonction des innovations qui arrivent. Ça me semble super important. Et si l'ARS pouvait être finalement le chef d'orchestre de ça, ce serait top. Après, sur la recherche, je ne suis pas certaine que ce soit son rôle. Je rejoins Alain là-dessus.
Younes,
je vais abonder dans le sens de Alain et Frédéric, dans la mesure où la structure, là, on a déjà une structuration du pilotage de la recherche à un niveau régional avec les rectorats. Et je pense que sortir une partie du champ de la recherche du rectorat pour le rebasculer du côté des ARS, ça va ajouter des surcoûts, de la complexité, sachant qu'on est sur deux institutions, quand on regarde de plus près sur le terrain, qui sont deux corps déconcentrés de l'État, mais qui n'arrivent absolument pas à travailler ensemble. Et on le voit encore pendant la crise sanitaire où organiser une campagne de dépistage dans une université, c'est très compliqué. Donc, faire collaborer rectorat et ARS sur le champ de la recherche en santé, je pense que ça peut rajouter de la complexité. Par contre, que l'ARS s'intéresse à ces questions par d'autres prismes, ne serait-ce qu'en ajoutant un petit peu plus de porosité avec le rectorat et en se dotant d'un agenda recherche, j'ai envie de dire, en collaboration avec le rectorat, pourquoi pas, parce qu'on peut mixer une compétence assez transversale qui est celle de la recherche avec quelque chose d'un peu plus disciplinaire qui est le secteur de la santé, et là on pourrait faire quelque chose de bien, mais à mon avis on n'en est pas encore là.
Frédéric, tu voulais intervenir ?
Non, c'est bon, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que je suis d'accord avec Younes et Alain.
Alors, surtout si vous avez des questions à poser, vous levez votre petite main jaune, vous savez que vous avez dans la barre d'outils, et je vous passe la parole immédiatement. Antoine, par rapport à ces questions de politique industrielle, tu as abordé un certain nombre de sujets, en particulier le sujet que je trouve fort intéressant, de la mauvaise gestion due à une infrangibilité des enveloppes des fonds de l'État qui, en privant en baissant le prix d'un médicament, par exemple, arrive à se couper des fonds qui sont dans d'autres poches, comme l'impôt sur les sociétés, voire même des politiques industrielles qui risquent de se solder par des pertes d'emplois ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on a des exemples concrets, on a des choses qui peuvent être montrées là-dessus?
Alors, il y a un exemple concret. Je pense que la personne en question n'est pas autour de cette table, donc je ne me permettrai pas de reprendre son exemple, mais je pense qu'elle se fera un plaisir de l'évoquer si on lui demande. Je veux dire, c'est un exemple qui s'est produit il y a peu de temps avec une baisse arbitraire sur un produit remboursé à 15% qui impactait directement le résultat d'exploitation et donc directement l'IS. Voilà. Et donc, le gain de la sécurité sociale, que c'était à 15%, je crois, du tiers de la perte d'IS. Donc, c'est délirant. Enfin, on est dans un système délirant. La sécurité sociale règle son budget sans tenir compte de l'impact de ce qu'elle demande. Et c'est là où je pense que ce que je disais tout à l'heure, au risque de me faire pas forcément que des amis en pleine négociation de prix, c'est pas grave. Je pense que la direction générale de l'entreprise n'a pas assez de poids, en tout cas, il n'y a pas assez de représentativité au CEPS de la direction générale de l'entreprise de Bercy car au-dessus de la direction de la sécurité sociale, il me semble qu'il y a Bercy quand même. Donc, eux, ils doivent pouvoir faire la consolidation des comptes et se rendre compte de l'impact que peut avoir ce type de décision. Et en effet, tu parlais aussi de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, à force de baisser les marges, donc soit on choisit la délocalisation, c'est-à-dire que c'est les emplois qui sont perdus en France, soit on arrête, tout simplement. Et ça peut être des usines qui vont fermer alors qu'elles ont 30, 40, 50 ans d'existence. Alors c'est vrai qu'à l'AMLIS, qui est l'association des moyens et petits laboratoires, il y a beaucoup d'histoires familiales, de laboratoires familiaux qui souffrent aujourd'hui parce qu'on leur coupe. Mais pour gagner quoi ? C'est-à-dire qu'on essaye de grappiller peut-être 500 000 euros ou 1 million d'euros sur un produit qui fait 3 ou 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je veux dire, c'est délirant. Sans tenir compte, in fine, du besoin médical qui est majeur. Je suis de formation de réanimateur. Le 23 mars, on m'a appelé, je m'en souviens, 2020, en me disant « il n'y a plus d'hypnovel, il n'y a plus de curare en France ». Et on intube comment les patients ? Au whisky ? C'est quand même… Je peux vous dire qu'il y avait de l'hypnovel et du curare en Suisse, il y avait de l'hypnovel et du curare en Allemagne, en Italie. Donc, je comprends pas. Et pourquoi ? Parce que, je suis désolé, mais le groupe industriel, je ne le critique pas, qui est européen, quand un produit est vendu 1 euro en France et 3 euros en Allemagne et 2,50 euros en Espagne ou en Italie, eh bien, il choisit son marché et il donne ses préférences. Voilà. Donc, on aboutit à des obligations de stock que je trouve tout à fait justifiées parce qu'il y a des ruptures de stock qui sont, pour moi, inadmissibles. Nous-mêmes, on a des médicaments qui traitent les maladies rares. Et je remercie d'ailleurs Frédéric pour la petite touche sur la problématique des médicaments orphelins, parce qu'un médicament orphelin qui a un ASMR 5, il faudrait quand même revenir sur le droit européen. S'il fait pas mieux que l'existant, sachant que s'il est orphelin, ça veut dire qu'il n'y a pas d'existant, c'est quand même un gros paradoxe de la part de la commission de transparence. Mais ceci, petite égratignure. Mais je pense sincèrement qu'il faut impérativement que la DSS soit beaucoup plus, ait beaucoup plus de contre-pouvoir au sein des pouvoirs décisionnels, des chambres de décision, ou alors c'est le Conseil d'État qui va devenir le gestionnaire in fine du prix des médicaments en France. Je ne suis pas sûr que ce soit son rôle.
Frédéric, tu voulais intervenir.
Oui, j'ai deux choses à dire. Je pense qu'on a effectivement un foie beaucoup trop fort dans la régulation en général de la DSS, pas qu'au niveau du CEPS. Hein, c'est l'objectif, c'est budget à court terme, et on gère comme si une entreprise ne gérait que ses coûts sans gérer le reste. Et donc, on gère par rapport à une offre de soins en essayant d'en avoir le plus possible à moindre prix, sans s'assurer que ça corresponde aux besoins des patients et des Français, tout bêtement. Donc ça, c'est quand même un problème, et c'est vrai que ce poids est beaucoup trop important et probablement plus du tout justifié. La deuxième chose, c'est quand on pense comité économique, ce qui moi me gêne un peu, c'est que le rôle du comité économique, il est de tarifer les produits de santé, et uniquement les produits de santé quelque part, et on ne lui demande pas de faire de la gestion du risque et de regarder ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire je fais tel choix sur tel dispositif ou telle prestation de service, et ça peut avoir un impact délétère par ailleurs, ou ça peut avoir un impact en termes de diminution de durée de séjour, d'hospitalisation, etc. Tout cela ne lui est pas demandé, mis à part par le biais des évaluations médico-économiques que peut faire la CES, qui sont extrêmement compliquées à faire, et pas toujours, et en plus on nous demande de les faire a priori, alors que ce serait plus intéressant de les faire quand le produit est déjà un peu diffusé. Donc ça, c'est une bataille menée depuis longtemps, et je trouve que quelque part le rôle du comité, qui est vraiment sur la tarification d'un produit, est probablement un petit peu trop myope et un petit peu trop resserré. Voilà, donc c'est nous on est en discussion avec le CEPS sur ces sujets là mais réglementairement, il n'a pas le choix. Et je trouve ça très dommage, parce que ça nous empêche d'être intelligents dans la tarification. Je ne suis pas certaine que le CEPS ne soit pas, pour certains de ses membres, d'accord avec moi. Voilà. Mais je ne vais pas parler de quoi.
Et non, on veut des noms.
Je vois qui est le
Alain Bernard, j'avais une question, et après je passerai la parole à Stéphane. Vous avez parlé de recherche, vous avez parlé de recherche en France, en région. Il y a un échelon qui est un échelon important. La France est à la présidence de l'Union européenne là, pour 6 mois. Il y a un fort impact sur la santé, avec en particulier la conception et la construction de HERA. Il y a une problématique générale qui est celle de One Health sur laquelle les choses deviennent extrêmement importantes à considérer. Et en particulier, dans le concept de One Health, on a le concept de santé globale avec cette santé humaine, cette santé animale et cette santé environnementale et la santé agricole qui viennent s'interpénétrer pour développer justement une prise en compte beaucoup plus globale de la santé et une prise en compte de la prévention et de la gestion des risques plus facile. On a un problème parce que quand on en discute avec quelqu'un comme Véronique Trier-Lenoir, par exemple, qui est également professeur de médecine, de plan européen contre le cancer, elle signale une carence importante de la part des entreprises ou des chercheurs sur l'utilisation des fonds européens. Et la France se situe très très mal sur le plan du ranking des équipes qui vont chercher des fonds à l'Europe, alors qu'il y a des fonds qui ne sont pas tous consommés d'ailleurs. Vous avez dans votre rapport fait des propositions là-dessus ou...
Non, on n'est pas allé aussi près dans son détail, mais il y a eu vraiment l'accent sur la dimension européenne de la recherche a été vraiment signalé. Et c'est vrai ce que vous dites. Moi, là, on n'en parle pas dans le rapport, mais il y a beaucoup de par rapport à d'autres pays européens, on utilise beaucoup moins les fonds européens pour la recherche, oui, parce qu'il y a une méconnaissance. Et justement, moi, puisqu'on a quand même travaillé beaucoup sur la notion de région, et je pense que les universités devraient s'ouvrir davantage sur les appels d'offres européens pour impliquer les équipes françaises à développer des projets européens. Oui, ça c'est vrai, ça c'est une.
Et le guichet unique dont parlait Younes tout à l'heure, est-ce que c'est une solution qui pourrait être utilisée pour ça? Pour aider au montage des dossiers, pour aider à un certain nombre de choses?
Olivier, pour aider les structures support. En fait, c'est ça qu'il faut.
Voilà, ça, c'est des équipes qui puissent aider les chercheurs à aller chercher ces fonds européens, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Mais en revanche, le guichet unique, si j'ai bien compris, c'est pour simplifier les démarches administratives, les autorisations, oui, pour faire oui. Ces chums, etc. C'est ça, dans ce sens-là, vous entendez guichet unique, non? C'est dans ce sens-là oui, où j'ai mal compris.
Oui, non, vous avez parfaitement raison.
Mais voilà. C'est tout à fait vrai. En France, on a un retard dans les appels d'offres européens qui est. Alors, c'est par méconnaissance, hein, c'est parce qu'on a peut-être effectivement des gens, enfin, des équipes, des structures qui permettraient peut-être accompagner les jeunes chercheurs vers ces fonds européens pour développer la recherche. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. C'est par méconnaissance. Voilà. On est trop focus sur le franco-français, voilà, et puis à se dépatouiller avec les démarches administratives françaises, voilà.
Olivier, en Allemagne, dans les pays scandinaves, dans toutes les universités, il y a des cellules transverses qui montrent les dossiers. Je veux dire, les cliniciens aujourd'hui, les chercheurs, d'abord, c'est d'une complexité rare, c'est chronophage à un point incroyable. Et donc, toutes ces universités, les grandes universités européennes qui bénéficient de ces fonds européens, ont toutes des structures support. Toutes. Donc, si on ne se dote pas de ce type d'outils, alors ça pourrait faire partie d'une mission de l'Agence de l'innovation. Et avoir un guichet régional de l'Agence de l'innovation qui aide tous les chercheurs à monter ces dossiers européens.
Alors, on a une question de Stéphane. Stéphane, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire qui vous êtes et poser votre question?
Voilà, le micro, et comme ça, vous pouvez me voir. Je ne sais pas si ça passe.
Ah, bah oui, mais dans ce cas-là, voilà.
Je suis Monica Stéphane. Stéphane, comment ça dit? Je suis chercheur en sciences politiques, venue de la sociologie, et je fais toute ma carrière qui officiellement est finie maintenant parce qu'à la retraite, mais on est chercheur à vie, donc on continue à travailler, spécialisé dans les politiques de santé. Et donc, j'ai sauté un peu sur ma chaise pendant que je vous écoutais parce que je ne partage pas tellement cet enthousiasme pour produire français, ni ce discours on nous casse les prix, c'est ce qui est vrai. On a un système de santé qui coûte très très cher par rapport à l'économie française. Donc le gouvernement et tous ceux qui sont en charge, ils essaient de diminuer un peu les prix, mais et que ça fait perdre des emplois, etc. Mais moi, j'ai observé sur des longues années, et là, c'est ce que nous a dit Monsieur Ferry. Les petites entreprises, ils vont s'effondrer, sont souvent familiales, l'emploi va partir. J'ai entendu ce même discours dans les années 90, quand on a mis en place dans la réforme de 86, la HAS, qui a passé au crible d'une recherche sur l'utilité médicale, le service médical rendu de chaque médicament. Alors, à l'époque, on remboursait quelques 8000 médicaments, un peu plus. Il en sort sorti à peu près que 30% étaient relativement faibles dans leur usage médical, dans leur bénéfice médical, et qu'il y en avait presque 1000 qui étaient carrément dangereux. Et alors, pour dérembourser ce médicament, d'abord les dangereux, et puis ensuite diminuer peut-être le remboursement pour ceux qui n'étaient pas très utiles, on a mis à peu près 10 ans parce qu'il fallait permettre le temps à toutes ces entreprises, qui étaient souvent des petites entreprises, qui n'avaient que le marché français, leur donner le temps pour se reconvertir. Alors là, on risque peut-être de repartir dans le même truc. Alors, il faudrait penser à ça, parce que moi, je suis arrivée en France comme une jeune femme étrangère, j'ai fait ma carrière en France, et je peux vous dire, et plus tard, je travaillais aussi dans les universités françaises, la France est complètement, notamment dans les sciences sociales, complètement isolé le reste du monde. Et ça produit des effets qui ne sont pas très bons. Donc, par exemple, au niveau européen, on n'a pas tous les crédits qu'on pourrait avoir parce qu'on a des structures dans les universités pour aider à monter le dossier. Mais certaines de ces personnes ne parlent pas un mot d'anglais. Des chercheurs, ce n'est pas vrai pour les sciences dures et pour les sciences médicales. Ils sont en anglais. Ils peuvent lire et écrire et parler en anglais. Mais dans les sciences sociales, ça se change maintenant. Il y a des jeunes qui sont assez bons en anglais, pas tous, mais il y en a encore beaucoup qui dirigent des structures de gouvernance. Donc l'anglais est vraiment minimal. Donc comment voulez-vous qu'ils aient des rapports avec les autres chercheurs? Donc voilà, donc d'abord, le premier argument que je voulais ramener, il faudrait peut-être inventer, avant de dire on va tout faire en France, il faudrait peut-être vraiment se donner des moyens de contrôler la qualité de ce qu'on fait parce que ça nous a quand même valu des misères dans le passé, quoi. Et ce n'est pas acceptable, à mon avis, de dépenser l'argent de la sécurité sociale pour financer des emplois parce que sinon on les perd, parce que c'est un producteur qui a depuis 50 ans fait ce médicament. Ça, c'était des arguments qui étaient écrits et dits dans les années, deuxième moitié des années 90 et début des années 2000. Et après, bon, bah, les productions sont parties et ces petites choses ont été arrêtées parce que la Sécu ne remboursait plus. Alors, pour la spécificité française, vous n'avez pas beaucoup parlé des réglementations au niveau national qui ne marchent pas. Il faut mettre sur la région et sur l'Europe. Je crois que c'est bon parce qu'on a quand même dirigé, j'ai étudié beaucoup les politiques de SIDA à l'époque. La France faisait sa politique un peu différent des autres, une politique de prévention extrêmement généralisée. On avait tous le même risque, il fallait que tout le monde, même le vieux grand-père avec sa grand-mère, mette le préservatif parce que le risque était partout, pour ne pas cibler, pour ne pas dire qu'il y a des groupes à risque. Ce mot était interdit pendant longtemps, on n'avait pas le droit de le dire. Quand on a eu le scandale des sangs, on a quand même dû admettre que ça n'était pas une bonne politique, on a complètement changé. Donc la spécificité de la bonne politique française, ça a été un échec. Le sang contaminé, là, on a eu la même affaire, c'est-à-dire une communauté médicale et scientifique française très isolée de tout son environnement et qui n'a pas été assez rapide pour aller réagir à ces risques. Après, on a eu beaucoup de scandales avec le producteur français comme Servier, avec son médicament, etc. Donc, il faudrait peut-être revoir l'ensemble du dispositif de qu'est-ce qui est vraiment utile aux patients. Peut-être le médecin et le patient devraient être plus présents dans les évaluations, le clinicien et le patient, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire, si on, il ne faut pas revenir en arrière et refaire les mêmes erreurs avec, avec maintenant cette idée qu'il faut plus produire en France. Je pense qu'il c'est, faut le faire, oui. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas eu des masques ou certains médicaments. Mais il faut le penser en rapport avec les autres pays européens et aussi avec l'idée qu'il faut... Il faut assurer la qualité et pas payer pour des choses qui ne sont pas forcément utiles. Alors après, on a le problème du capital risque. On ne sait pas d'avance ce qui va marcher et ce qui va marcher. Mais j'ai quand même l'impression que cette vieille France, elle est en train de disparaître un petit peu. Peut-être le moment, il est bon pour relancer tout ça, comme vous le faites. On va produire plus en France, on va investir sur le capital risque, etc., etc. Mais il faut que ce soit vraiment nouveau. Il ne faut pas repartir sur les anciennes bases, qui étaient simplement, bon, il y a le syndicat, protéger les emplois et faire des choses comme ça. Et alors, là-dessus, je vais finir. Pour la gouvernance des universités, oui, je vous soutiens, il faut changer ça. Sachez quand même que toutes les tentatives qui sont faites actuellement pour plus territorialiser ou régionaliser les compétences, parce qu'il y a les clusters avec les industriels, tout ça, ça se met en place, mais ça fait quand même, en tout cas en sciences sociales, un énorme proteste au niveau du Comité national des universités. Et dans nos disciplines en sciences sociales, c'est Paris. Paris ne veut pas perdre le pouvoir. C'est-à-dire les grandes écoles parisiennes, c'est eux qui mettent les gens dans les commissions, c'est eux qui gèrent le recrutement, etc., etc. Donc, c'est pas très bon. Il y en a eu un certain nombre de désespoirs pas très, très gentils là, ce dernier temps dans ces écoles. Donc voilà, il faut réviser vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et je souhaite de tout mon cœur qu'on va y arriver.
C'est l'occasion avec l'élection présidentielle de pouvoir poser un certain nombre de choses.
Exactement.
Ça me semble être tout à fait important. Puis les Parisiens, c'est vrai que surtout du côté bourguignon, on les regarde avec circonspection quand même, parce que d'abord ils connaissent rien au vin, mais en plus de ça.
Il faut pas oublier que la Bourgogne a fait, Dijon a fait être la capitale de la France. Hein. Le duc de Bourgogne a été beaucoup plus puissant à l'époque que les droits de France. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein.
Mais ça t'est mérité à friser. C'était plus l'audace à ce point-là. Je voudrais revenir sur un sujet, moi, qui me semble extrêmement important. Le 4 octobre dernier, Olivier Véran a envoyé à Dominique Le Guildec une lettre de saisine pour changer les méthodes d'évaluation des produits de santé, que ce soit les dispositifs médicaux ou les médicaments, et en particulier en essayant de tenir compte le plus possible de ce qu'on appelle les PREM et les PROM, donc tout ce qui est patient outcome, pour voir comment on pouvait faire prendre en compte cette dimension qui est une dimension importante de l'évaluation du médicament, l'évaluation par les patients. De l'autre côté, on se retrouve avec un système européen qui a montré qu'un peu de dirigisme et un peu moins de subsidiarité dans les systèmes permettait d'obtenir de la rapidité administrative pour valider les vaccins, permettait de faire des commandes qui soient des commandes groupées pour les 27 pays européens, de mettre à disposition plus d'1,8 milliard de doses de vaccins pour des pays en voie de développement. Donc il y a pour moi deux choses qui sont pas forcément antinomiques, mais sur lesquelles la France, avec ses spécificités et son chauvinisme particulier, a du mal à s'aligner. Qu'est-ce que vous penseriez d'une évaluation qui soit une évaluation européenne et pas une évaluation avec les spécificités françaises?
Ben, c'est en marche pour le moment, Olivier. Faut espérer que la présidence française le permettra de consolider les fondations de ces HTA européens. Je pense que après c'est toujours la problématique jusqu'où va être reconnue l'évaluation. Quand on voit que sur des AMM centralisées, la commission de la transparence peut refaire complètement l'AMM, on se pose quand même des questions. Je veux dire, je parlais des ASMR 5 pour les orphans tout à l'heure. Pour moi, c'est une aberration et c'est une faute vis-à-vis du règlement européen. Parce qu'un médicament orphelin ne peut pas être en ASMR 5. Donc, si la volonté de la France, c'est de partager, d'échanger, je crois qu'il y a 14 ou 15 États membres dans UHTA, et de reconnaître l'évaluation faite dans le cadre européen, là, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Si, en revanche, cette évaluation n'est pas prise en compte quand on arrive au niveau national, il faut s'arrêter tout de suite, ça ne servira à rien.
Alain ?
C'est un sujet déjà qu'on se pose à l'époque déjà. Alors, effectivement, le système français, on a notamment pour les dispositifs que je connais bien, c'est qu'il y a une évaluation a priori, ce qui n'existe pas dans les autres pays européens. Alors, l'argument qu'on nous sortait, alors je ne sais pas, peut-être quelque chose, c'est qu'on a des systèmes de remboursement qui sont différents aussi. France, c'est la solidarité nationale, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Donc, c'est toujours moi, je pense qu'effectivement, si on veut être logique, c'est d'arriver vers des évaluations européennes, bon, même s'il y a un effort, mais c'est vrai que ça va changer complètement le paradigme notamment la HAS, qui est évalue a priori les produits de santé. Elle les évalue a priori, et puis ensuite, même des fois, elle fait une évaluation a posteriori, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays européens qui font plutôt une évaluation a posteriori lorsque le produit a une marque HE, je ne parle pas pour les dispositifs médicaux, pour les médicaments, je ne me permettrai pas. Et ensuite, par contre, à l'indifférence, c'est vrai que des fois, il y a des évaluations qui passent a posteriori, puis qu'ils estiment que le niveau d'évaluation, le niveau de service rendu aux patients n'est pas au rendez-vous, donc on ne le rembourse plus, on ne l'autorise plus. Mais voilà, mais je pense que honnêtement, c'est vrai que c'est une dépense d'énergie, ça encourage pas les industriels à vouloir développer en France à cause de ça. Oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut certainement revoir les choses, mais ça va demander une refonte complète de l'évaluation des produits de santé en France. Hein. C'est un chantier énorme. Je suis pas sûr que ça soit d'actualité. Hein. Voilà mon point de vue, mais moi je serais tenté. Vous m'auriez interrogé il y a 10 ans, je voudrais dire, c'est pas utile puisque c'est vrai qu'on a un système de remboursement qui est différent, la solidarité, donc il faut savoir quand même qu'on offre on va au remboursement à un produit de santé qui doit être évalué a priori. Mais maintenant, avec le temps, l'évolution des choses, moi je serais plutôt partisan de se tendre vers une évaluation européenne. Oui.
Surtout qu'on a quand même un problème d'accès au traitement et de délai d'accès en particulier. C'est pas parce qu'on a fait une réforme de l'accès précoce qu'automatiquement on a résolu toutes les problématiques. Et quand on voit les négociations, le temps des négociations avec en particulier la sphère économique, ce sont des jours et des jours et des jours et des jours et des mois qui s'accumulent les uns derrière les autres.
Et je dirais que maintenant, on a quand même des outils qui permettraient de suivre ces produits de santé et de voir, imaginons qu'on découvre qu'il y a des choses qui... On aura tous les moyens d'arrêter, de faire une évaluation. Et puis, voilà. Donc, je pense qu'on n'est plus comme il y a 10 ans ou 15 ans où c'était effectivement l'évaluation périodique peut-être pouvait se justifier. Mais je pense qu'avec l'évolution, de mon point de vue, elle se justifie de moins en moins. Voilà.
J'ai toujours été surpris par une anecdote, c'est quand Aquilino Morel s'est occupé de l'affaire Mediator, les chiffres de la CNAM sont sortis en 2 semaines. Ah oui, quand on réclamait des chiffres sur des médicaments ou des prises en charge, c'était strictement impossible, c'était vraiment quelque chose qui était techniquement pas possible, nous disait-on à l'époque. Donc, mais je pense qu'avec le Health Data Hub et tout ça, ça va beaucoup évoluer. Cette question de l'évaluation, Frédéric, Antoine. Tu es en mute, Frédéric.
Oh, micro.
Ah ben attendez, j'éteins tout du coup. Voilà. Alors en fait, par rapport à l'évaluation européenne, d'avoir des HKL européennes, aujourd'hui ce que nous on en a compris, c'est qu'elles étaient d'abord et uniquement cliniques. On n'est pas sur une évaluation médico-économique. Et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est difficile d'avoir une évaluation médico-économique. européenne, dans le sens où les systèmes de prise en charge sont différents. Nous, ce qui nous fait un peu peur dans le dispositif médical, c'est que pas tant que ça pour la France, mais pour d'autres pays, c'est qu'il faille d'abord passer par le HTA européen avant d'avoir avant de donner accès aux produits. Et donc, en fait, que le système français, qui est cette évaluation a priori, soit celui qui soit finalement utilisé partout en Europe. Alors que ce n'est pas le cas pour le dispositif médical. Voilà, donc ça, c'est un écueil pour nous que l'industrie, et quand je dis nous, là, c'est l'industrie des dispositifs médicaux, que l'industrie du médicament n'a peut-être pas. Après, effectivement, n'avoir qu'un dossier à faire au niveau européen et pas avoir à le redécliner dans l'ensemble des pays d'Europe, c'est plutôt intéressant. Et il n'y a pas de raison, en fait, que l'évaluation clinique soit fondamentalement différente selon le pays qui la regarde. Pour ce qui est après, peut-être des prêmes et des proms, pour moi, les prêmes et les proms, donc cette expérience patient, ne sont pas liés qu'aux produits de santé, ils sont aussi liés beaucoup à la façon dont on l'utilise. Et du coup, cette partie-là peut aussi avoir besoin d'être transposée au niveau national. Voilà, je ne sais pas encore. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de réfléchir. Je n'ai pas de réponse définitive.
Simplement faire une remarque pour les problèmes, c'est les problèmes. Là aussi, ça pose un problème européen. Parce que les échelles de qualité de vie, on ne peut pas utiliser une échelle allemande ou anglaise en France. Il faut qu'elle soit validée parce que la culture, le patient français, il même est quand même au niveau de la compréhension de son état de santé, de sa traduction du fait de la culture, qui est quand même différente, hein, même si on est en Europe. Donc, ça peut poser aussi des problèmes d'évaluation. Voilà. Il faut le savoir.
Mais c'est vrai que si on tenait compte, par exemple, je prends une anecdote, mais si on tenait compte des patient outcome, demander à un patient s'il préfère avoir une grande chirurgie avec une grande thoracotomie, cœur arrêté, pour se faire remplacer une valve, alors que maintenant, dans l'indication inopérable déjà, on n'a plus le droit de les toucher et qu'on leur pose état vie, il y a un moment, on peut se dire que c'est assez particulier quand même. Le fait qu'il reste encore des actes chirurgicaux, en dehors de cas exceptionnels, bien entendu, mais sur des pathologies comme celle-là, ça pose d'ailleurs un problème d'allocation de moyens ensuite, puisque c'est des moyens qui sont alloués à garder des équipes de chirurgie cardiaque sur des opérations lourdes, alors qu'on a l'impact de l'innovation dans l'organisation du système est mal pris en compte.
Tu touches du doigt la problématique qu'on a, qui est un système de santé qui est plutôt fait pour les offreurs de soins que pour les patients, quelque part. Enfin, je pousse un peu le bouchon et je ne veux pas avoir trop d'inimité autour de la table, mais malgré tout, il y a quand même cette approche en France qui n'aide pas à la diffusion de l'innovation et au fait qu'on remodèle l'organisation des soins en fonction de ce qu'elle peut apporter aux patients derrière. Donc, ce pan-là de l'organisation de soins est parfois oublié. Pas toujours, mais parfois.
Enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, faire une chirurgie de péant sur un ulcère gastro-duodénal serait considéré comme totalement non éthique par n'importe quel conseil de l'ordre. Et le chirurgien se retrouverait en structure disciplinaire. Donc, on devrait pouvoir arriver à faire évoluer les systèmes. Antoine, l'évaluation européenne ?
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Alors, je rebondis un peu sur ce que disait Alain tout à l'heure en disant qu'on est dans un système de prise en charge qui est un petit peu différent des autres pays. Je pense que là, il y a un problème. C'est que si on commence à évaluer le médicament en fonction de la prise en charge financière de chaque pays, on n'évalue plus un médicament, en fait. On évalue un médicament dans un état, quoi. Mais on n'évalue pas la qualité du médicament. Et pour moi, ce qu'on doit évaluer aujourd'hui, ce que devrait évaluer les HTA, c'est la qualité et l'apport de ce médicament par rapport à l'existant ou par rapport à l'inexistant, dans le cas des orphans. Donc, je pense... alors, je suis dans une PME, donc j'ai la chance immense d'avoir négocié quasiment les prix dans tous les pays. Donc, j'ai pu voir tous les systèmes et j'ai pu les comparer des visu. Et il n'y a que la France qui est dans ce système-là, avec un système qui est,
excusez-moi, mais qui est quand même un peu biaisé à partir du moment où siègent à la commission de transparence les payeurs avec des voix un peu prépondérantes. Donc, on peut se poser la question de savoir si la commission de transparence est un régulateur économique ou un régulateur de l'évaluation. Je pense que la question sera vite réglée avec EHR, à condition que l'évaluation européenne soit reconnue par la commission de la transparence. Sinon, une fois de plus, non seulement on ira au Conseil d'État, mais en plus on ira au Luxembourg, à la Cour européenne. Donc ce sera fabuleux. Mais il faut que la France accepte que l'évaluation européenne soit reconnue à sa juste valeur. Et comme le disait Frédéric sur la partie clinique, ce qui est quand même l'essentiel, est-ce que l'apport clinique est majeur ou pas? C'est ça la SMR. Donc je pense que l'apport majeur, il est aussi valable en France qu'il ne l'est en Allemagne, qu'il ne l'est en Suède ou en Italie ou en Espagne. Je veux dire, les traitements accessibles aujourd'hui, il n'y a pas encore des bastions dans un coin paumé à côté de Séville qui traitent les patients différemment. Je veux dire, on a une harmonie de prise en charge qui est relativement homogène. Donc, je ne vois pas en quoi l'évaluation pourrait être différente sur 14 États membres. Mais encore faut-il que chaque État membre accepte la validité de cette évaluation.
C'était la création de la chaise, c'était ça, hein, c'était par rapport au remboursement, voilà. Mais moi, je suis d'accord, hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein.
Super. Autre sujet que vous avez abordé, et sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, c'est les implantations régionales des entreprises. Si on prend l'exemple de Dijon, par exemple, on a un certain nombre d'entreprises de santé qui gravitent autour de l'université. Comment on peut renforcer ces liens entre la métropole, entre l'université, le tissu sanitaire qui existe autour? Qu'est-ce que vous verriez justement pour dans cette politique industrielle pour donner à chacune des régions des moyens supplémentaires ou faire briller un certain nombre de fleurons qui peuvent exister chez elles?
Je vous laisse répondre à notre. Allez. Vous aviez.
Yves?
Oui.
Alors, premier constat, c'est que, après c'est un peu une évidence, les bassins d'emploi, ils sont avant tout locaux, régionaux. Donc le fait qu'on ait des politiques de réindustrialisation qui soient régionales, c'est du bon sens. Après, on a quand même des outils, des exemples qui montrent qu'on arrive quand même à rassembler sur une même place un certain nombre d'acteurs. Et c'est à peu près ce qu'on arrive à faire, par exemple, avec des pôles de compétitivité où on arrive à avoir des acteurs, des entreprises, des financeurs et des acteurs politiques. Peut-être qu'il n'y a pas assez de pôles de compétitivité en France. Et que les régions devraient peut-être s'adonner à en créer, à les démultiplier un petit peu, ne serait-ce que déjà pour pas hyper concentrer toute cette activité d'innovation, de recherche, de développement, etc. sur certains points régionaux, mais peut-être avoir des approches qui soient infra-régionales. Et il y a très certainement, avec le guichet unique et ce qu'évoquait Antoine Ferry tout à l'heure, les déclinaisons régionales des agences d'innovation en santé. Enfin, si on crée des strates comme ça, il faut que ce soit des strates qui soient suffisamment transversales, qui rassemblent des acteurs publics et privés, et qu'on ne soit pas dans une nouvelle structure qui sera pleine de dogmes et qui constituera seulement un frein. Donc pour moi, deux choses. Peut-être la question de reproduire ce qui fonctionne, en l'occurrence avec les pôles de compétitivité. Et s'il y a des agences régionales de l'innovation qui sont créées, peut-être le faire au-delà des clivages et des dogmes qui existent aujourd'hui entre administration publique et entreprise. Et après, c'est de la responsabilité de chaque acteur de pouvoir s'engager dans ce type de structure. Et si une université n'a pas l'ouverture nécessaire pour aller s'impliquer dans ces structures ou les ressources. Le problème vient de ce côté. Donc il y a aussi la notion de volonté politique. Et si on peut parfaitement illustrer ce cas-là, où je parlais tout à l'heure des politiques de regroupement de sites au sein des établissements d'enseignement supérieur, ce qu'on a vu et ce qu'on voit encore, c'est que quand on parle des sciences techniques, des sciences économiques, on arrive à porter des projets communs sur les questions de développement d'établissement, mais il y a un phénomène qui s'accroît de plus en plus, c'est la marginalisation des universités en sciences et sociales. L'exemple le plus criant, c'est celui de Bordeaux, où on a une supra-université, l'Université de Bordeaux, et puis à côté, on a l'Université Bordeaux-Montaigne qui est en train de s'éteindre petit à petit, parce qu'il n'y a pas eu la volonté politique et on s'est renfermé dans des dogmes qui a fait qu'on n'a pas su créer de commun avec un super projet. Donc exactement la même chose pour les questions santé, réindustrialisation santé au niveau d'une région.
Alain ?
Oui, moi je partage tout à fait ça. Il y a une chose, si on voulait aussi renforcer le dynamisme, le rapprochement, c'est les contrats, effectivement, de cette espèce de barrière qui existe entre le monde de la recherche académique et le monde de la recherche privée. Il faudrait pouvoir être beaucoup plus souple et qu'un jeune chercheur puisse aller monter son entreprise et revenir après ensuite dans l'université, mais que son contrat soit beaucoup plus souple, soit pas une fois que j'ai quitté le monde académique, je peux plus revenir, je vais dans le privé, voilà. Je pense qu'il y a aussi cette souplesse à avoir que malheureusement on n'a pas, et les gouvernances, comme très justement dit, des universités, elles sont pas, pour l'instant je pense qu'elles sont pas prêtes à faire ça, elles sont pas prêtes, enfin beaucoup, enfin notamment certaines, voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on va créer du dynamisme et puis qu'on va favoriser les recherches et puis surtout la translation pour développer et puis industrialiser ensuite les activités de recherche. Moi, Mme Bouquet, elle connaît bien, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'était à l'époque, j'étais encore à la CNIMS, c'est par exemple l'État-vie, vous parliez d'État-vie, c'est quand même le schéma typique de ce qui s'est passé. C'est un cardiologue français qui a développé le concept.
À la CNIMS.
Et puis après, quand il a fallu passer à l'autre étape, eh ben, malheureusement ou heureusement pour d'autres entreprises, mais ce ne sont pas des entreprises françaises qui l'ont développé. Voilà, parce qu'il n'a pas réussi à trouver le tissu industriel, la valorisation, au niveau, aussi bien au niveau régional que national, pour pouvoir passer à l'étape industrielle. Et puis surtout faire les essais et les études pour démontrer l'intérêt pour le patient. Voilà, et malheureusement, ce genre d'exemple, on en a encore régulièrement. Et tant qu'on n'aura pas cette volonté au niveau des régions par rapport à l'université, par rapport à la recherche académique et la recherche privée, de travailler ensemble et puis de pouvoir passer d'une structure à l'autre sans aucun problème, on en sera toujours à ce problème-là et être toujours à la traîne malheureusement dans certains domaines.
Ça devrait être le rôle des SAT, hein, normalement. Les SAT devraient pouvoir faire ce job-là. Donc, là aussi, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il faudrait évaluer la productivité, excusez-moi de ce mot grossier pour certains, la productivité des SAT. Et il faudrait même faire un petit charter et les emmener à l'EPFL à Lausanne ou à l'Université de Lund pour voir comment ça fonctionne. À l'EPFL, ça fonctionne merveilleusement bien. À Lausanne, c'est un exemple remarquable. Je veux dire, vous allez en Suède, les deux universités on met tous les industriels joignables en l'espace d'une demi-journée, les juridiques, la propriété industrielle, etc. Donc le modèle, il existe, hein, il fonctionne très très bien ailleurs. Mais là, on a la volonté de fabriquer des millefeuilles en France, certes c'est un délicieux dessert, mais malheureusement, on finit par avoir que de la pâte et plus beaucoup de crème pâtissière.
Je pense que c'est un problème culturel également. Je pense qu'au niveau du académique, il y a vraiment un changement. Et vous l'avez très bien dit, c'est les gouvernances. Donc, c'est l'aspect culturel des choses. Et ne pas voir le secteur privé là, comme quelque chose, je dirais, de temps en temps, le diable. Voilà, excusez-moi du terme. Ce n'est pas le bon terme, mais c'est qu'un peu faut reconnaître, hein, pour avoir baigné dans ce monde académique pendant toute ma carrière, c'est la façon dont c'était perçu. Hein. Et on le voit très bien, même dans les unités de recherche, dans les CHU, on a du mal encore à travailler avec l'industrie pharmaceutique ou du dispositif. Hein. Ça commence, c'est en train de bouger, mais il y a un retard considérable. Hein. Mais là, est-ce que l'élection présidentielle suffira? Est-ce que ce n'est pas des années encore, des dizaines d'années de changer de culture? Il faudra peut-être qu'une génération comme la mienne disparaisse et puis peut-être que sera remplacée par des gens qui ont une autre vision des choses. Je sais pas.
Ne soyez pas trop pressé parce que je pense qu'on fait partie de la même génération. Donc, ça ferait qu'on garde encore quelque chose à faire pendant quelques temps.
Il y a un autre point quand même, Olivier, si je peux me permettre, c'est que par rapport toujours à l'étranger, je suis désolé de prendre ces références à l'étranger, c'est que finalement, les chercheurs dans les partenariats publics-privés, ils n'y retrouvent pas leur compte.
Non, c'est sûr. C'est la raison.
Ils n'y retrouvent pas leur compte. Ce sont les structures qui absorbent quasiment tout. Mmh. Ce n'est pas normal et qui ne redistribuent pas. Donc, là aussi, c'est pour ça qu'on est... J'ai retiré mes cornes et ma queue fourchue avec mon trident, hein, vous inquiétez pas. Donc, je ne suis pas habillé de tout rouge aujourd'hui, mais on a signé énormément de partenariats publics-privés et je trouve ça totalement anormal. Je ne parle même pas à titre personnel parce que là, on est dans le modèle scandinave où là, c'est le rêve, mais au moins que les structures de recherche puissent bénéficier de ces partenariats publics-privés et un minimum de rétribution. Ce n'est pas normal que ce soit les institutions qui captent 95%, voire 98% des bénéfices des partenariats publics-privés. Donc le chercheur, de facto, non seulement il est réticent de travailler avec un industriel, d'abord parce qu'il va penser que l'industriel se fait beaucoup d'argent sur son dos, et en plus, il n'en retire rien. Donc, quelque part, pourquoi il irait plus loin? Il faut le comprendre.
Oui. Écoutez, on arrive. Younes, je suis désolé, à moins que tu aies un mot très court, mais autrement, pour respecter les horaires.
C'est ma faute.
Ce sera très court, Olivier, simplement pour dire on a un modèle un petit peu qui fonctionne en France, qui existe et qui serait étudié, c'est celui du CEA qui incite énormément ses chercheurs à aller exploiter les brevets qu'il a à ses dispositions pour les mener vers des stades d'industrialisation.
Merci. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah oui, voilà.
Et l'INRA.
Et l'INRA.
Très belle conclusion. Ouais.
Et ben voilà. Ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Vraiment, merci de cette participation, de cette construction. Je trouve que ce travail des quatre think tanks, ce sont des molécules d'intelligence qui se mettent ensemble et qui portent des diagnostics qui sont généralement très acérés, des propositions qui sont tout à fait intéressantes. On se fera fort de les porter ensuite aux différents candidats. Alors, je vous rappelle la prochaine table ronde qui aura lieu le 16 février prochain à 18h. Là, on va toucher à des vrais tabous, et on l'a vu avec les IPA, on l'a vu avec autre chose, enfin avec pas mal de... Le thème, c'est la formation des professionnels de santé et le partage des compétences. Et on a mis en sous-titre « Pour en finir avec les querelles de clochers ». Et Dieu sait si ces querelles de clochers, dans un pays comme la France, sont quelque chose d'extrêmement important. Voilà, et je vous retrouverai avec plaisir donc, le 16 février prochain, et on parlera de... transfert ou de délégation de tâches ou de transfert de compétences. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a très certainement des professionnels qui sont capables de faire des choses qu'on ne leur laisse pas faire et sur lesquels on gagnerait en flexibilité et très certainement en bienveillance pour les patients. Merci encore et très très bonne soirée.